RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Sylvain Tesson, bonjour.
Bonjour.
Vous, l'écrivain voyageur qui avait fait en quelque sorte des steppes d'Asie centrale et de la Sibérie votre jardin, vous êtes parti cette fois sur les hauteurs du Tibet à la recherche de la Panthère des Neiges. C'est le titre de votre nouveau livre à paraître jeudi chez Gallimard. Merci de venir nous en parler en avant-première. En studio avec nous, bien entendu, Bernard Lehu. En fin d'émission, nous jetterons un œil sur les programmes télé avec Isabelle Morini-Bosque. Sylvain Tesson, qu'a-t-elle de si particulier cette Panthère des Neiges pour justifier une expédition aussi lointaine?
D'abord, c'est un animal qui disparaît. C'est un grand carnassier dont on ne compte plus que 4 ou 5 000 spécimens dans le monde. Et puis, c'est un animal qui s'est adapté dans des conditions où on a l'idée que la vie ne peut pas se maintenir. Parce qu'elle s'est adaptée de la sorte qu'elle peut vivre jusqu'à 5 000 mètres d'altitude, dans des montagnes comme l'Himalaya, le Pamir ou les montagnes entre la Mongolie et la Russie. Elle circule dans la neige, elle vit dans le froid. Enfin, c'est vraiment l'animal de la difficulté d'être.
En un mot, elle est aussi quasiment impossible à voir, à rechercher si je puis dire.
Oui, c'est sa caractéristique principale, c'est la dissimulation et le camouflage absolu.
Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous avez lu comme moi La Panthère des Neiges, le nouveau livre de Sylvain Tesson, et comme moi vous avez évidemment rugi de plaisir.
Mais oui, car La Panthère des Neiges, c'est d'abord un formidable récit de voyage et d'aventure. Cette traque palpitante et toute pacifiste bien sûr de l'animal avec votre ami photographe Sylvain Tesson qui s'appelle Vincent Munier, et dans les paysages grandioses que vous venez d'évoquer déjà, du Shangtang, j'ai bien prononcé ?
Oui, c'est ça, le Shangtang, du grand plateau.
Gigantesque plateau qui culmine à 5000 mètres d'altitude aux confins du Tibet. Mais la Panthère des Neiges, c'est bien plus que cela encore. Vous signez un enthousiasmant traité de sagesse sur le lien de l'homme et de l'animal à l'art de l'observation et les vertus de la patience. Avec vous, le voyage, quel qu'il soit, tient toujours de la quête spirituelle. Au cours de votre expédition, cette panthère, vous l'aurez vue 4 fois, 4 apparition, comme on le dit, d'une apparition divine. Laquelle vous laisse le souvenir le plus fort, Sylvain Tesson?
La première, si vous aviez posé la question à Bernadette Soubirou dans la grotte de Lourdes, j'imagine, enfin je ne l'ai pas rencontrée, mais j'imagine qu'elle vous aurait répondu la même chose. C'est la première apparition. Il y avait quelque chose de sacré. Quand vous attendez l'animal sans être du tout sûr qu'il apparaîtra, et quand vous avez passé des jours cachés, dissimulés dans les rochers, dans les grottes en haute altitude, et que tout à coup, par la grâce du hasard et par la récompense de votre patience, soudain surgit la bête et que vous voyez la panthère à 100 mètres de vous dans les rocailles, alors c'est quasiment sacré comme moment. C'est une apparition, c'est pour ça que je ne crois pas que le mot soit absurde. Il y a véritablement quelque chose, quasi peut-être pas de religieux, mais certainement de spirituel dans son apparition.
J'avais pas perçu cet aspect soubirou chez vous jusqu'ici.
Oui, mon côté vieillard.
Peut-être l'avez-vous découvert justement dans cette traque extraordinaire, non ?
Non, mais c'est-à-dire que, sans plaisanter, il y a quelque chose qui est commun dans la foi, en tout cas l'attente mystique et spirituelle, et l'art de l'affût animalier. Et cette similitude, c'est l'espérance. C'est-à-dire que vous vous cachez dans les rochers, il fait moins 20 degrés, vous avez du mal à respirer parce que vous êtes en très haute altitude et vous n'êtes pas sûr du tout que quelque chose apparaisse, mais pourtant vous l'attendez. C'est ça l'espoir.
L'affût est une foi modeste, écrivez-vous.
Oui, je le crois, parce que si vous voulez, quand vous avez la foi en un Dieu, vous imaginez tout de même qu'il y a une puissance dont vous n'êtes absolument pas sûr de l'existence, à laquelle vous croyez. Ça s'appelle la foi. Et pourquoi est-ce que l'affût animalier est une foi modeste? Parce que vous savez que les animaux sont là, vous savez qu'ils existent, vous en êtes persuadé. Il y a une preuve en tout cas, et vous les attendez. Ils ne viendront peut-être pas, et s'ils viennent, c'est que vous avez été suffisamment patient et qu'ils ont été suffisamment agréables pour se manifester et apparaître. Et puis s'ils ne viennent pas, eh bien, vous recommencerez à venir et vous ne perdrez jamais l'espérance que quelque chose apparaisse.
Alors Sylvain Tesson, la panthère, elle aussi observe les hommes, comme le montre la seule photo assez incroyable qui figure dans votre livre.
Oui, c'est Vincent Munier, ce photographe animalier qui m'avait fait l'amitié de m'emmener au Tibet pour voir les panthères, qui un jour a pris en photographie un faucon qui s'était posé à côté de lui, un faucon.
Je me suis demandé d'ailleurs en voyant la photo, mais pourquoi dans son livre qui est consacré à la panthère nous montre-t-il la photo d'un faucon ?
C'est ça, alors il y a ce faucon qui est à 5 ou 6 mètres de lui, il est très content, il prend ce faucon qui est un magnifique faucon, et puis en travaillant sa photo quelques mois plus tard, il s'aperçoit que derrière le faucon, il y a une panthère qui le regarde, qui est restée pendant 20 minutes, mais il ne l'avait pas vue. Et en fait, ça donne une... Et on la distingue, on distingue ses yeux et ses oreilles qui se confondent au contour du rocher. Et ça dit quelque chose de très important quand on voyage dans le monde sauvage. Ça dit que nous sommes beaucoup plus regardés, nous sommes vus, nous sommes espionnés, beaucoup plus que nous le croyons. C'est exactement comme quand vous marchez dans une ville et que vous savez que peut-être que des regards sont en train de vous épier, comme dans un film d'Hitchcock, comme dans Fenêtre sur cour. Peut-être que des gargouilles accrochées au balcon des cathédrales vous regardent. Nous sommes épiés et nous ne le savons pas. Et ça vous rend modeste.
Ce d'autant plus que la panthère n'est pas le seul animal qui peuple ces paysages grandioses. Hein.
Non, il y a toute une chaîne alimentaire dans la très haute altitude, des bêtes très adaptées biologiquement au grand froid. Il y a des loups, il y a des lynx, il y a des ours.
Et le yak.
Et il y a des yaks sauvages. Il y a des yaks sauvages qui sont évidemment tous en voie de disparition parce qu'il y a eu la pression humaine et coloniale et militaire chinoise dans toutes ces régions du Haut-Tibet. Et le yak sauvage, qui est un animal incroyable, c'est un vaisseau. C'est un vaisseau de la préhistoire. On a presque l'impression qu'il sort d'une gravure rupestre d'une grotte paléolithique.
Et dans l'une des apparitions d'ailleurs de la panthère, je ne sais plus, je crois que c'est la troisième, vous la surprenez, elle vient de tuer un yak, elle est en train donc de manger ce yak.
Son système de chasse à la panthère, comme elle n'est pas très rapide, parce qu'elle est beaucoup plus massive que le léopard d'Afrique, elle ne fait pas des sprints dans la savane, elle travaille à fondre sur sa proie par la double utilisation du camouflage et de la fulgurance. Elle fait des bonds de 5 à 6 à 7 mètres. Elle saute sur la proie et elle ne lâche plus le garrot du mouflon ou du yak qu'elle a saisi. Et à ce moment-là, la seule chance pour la bête qui est attrapée, c'est de courir dans la pente. Et voilà que la panthère avec sa proie roule sur le versant. Et puis en général, le yak meurt. Et la panthère, à ce moment-là, reste à dévorer sa proie pendant toute une nuit. Et nous avons pu observer avec Vincent Munier ce spectacle qui est à la fois tragique mais qui est magnifique. C'est le spectacle de la vie et de la mort mêlée. Ça s'appelle l'existence, quoi, biologique. Et nous avons assisté à tout cela depuis une grotte où nous avions installé nos affûts à une centaine de mètres.
On poursuit ce merveilleux voyage initiatique avec vous dans quelques instants. Nous allons bivouaquer le temps d'une pause avant de retrouver La Panthère des Neiges. Votre livre paraît jeudi chez Gallimard et nous le ferons gagner dédicacé dans quelques instants. Sylvain Tesson, à tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous sommes toujours en votre compagnie, Sylvain Tesson, avant la sortie jeudi prochain chez Gallimard de votre nouveau livre, La Panthère des Neiges. Bernard Lehul disait tout à l'heure, votre ouvrage est à la fois un récit d'aventure et une quête spirituelle. Qu'avez-vous appris de plus précieux en allant à la rencontre de la Panthère des Neiges, Sylvain Tesson ?
Mais j'ai surtout appris des choses de l'attente et de l'affût. La panthère, évidemment, elle m'a appris que le monde était beau, que le monde était en sursis et que le monde était menacé. Mais l'affût, l'attente de la panthère, qui a constitué quand même la plus grande proportion de ce séjour, parce que vous attendez beaucoup.
Ça n'en finit pas.
C'est ça, pour voir très peu. Ça m'a appris les vertus de l'attente, les vertus de l'affût et les vertus de cette chose magnifique qui consiste à espérer quelque chose dont on n'est pas sûr de la venue.
Mais vous avez une nature patiente ?
Non, justement.
C'est bien ce que je pensais.
Non, moi, je suis quand même un agité du bocal. Voilà. J'ai passé ma vie à courir autour du monde. Oui. Dès que je vois une route, j'ai envie de la prendre. Et je me dis toujours que c'est l'abattage des kilomètres un peu frénétique. Ça s'appelle le mouvement, ça s'appelle le voyage, qui va m'apporter de l'intérêt et de l'intensité. Bien là, j'ai fait le contraire. Je me suis assis, je me suis dissimulé dans les rochers. J'étais à côté de Vincent Munier, le photographe animalier, qui lui-même est assez mutique. Il ne dit pas grand-chose, alors j'ai dû en plus...
C'est un compagnon de route
Oui, c'est ça. Alors, en plus, je devais renoncer à ma propension au bavardage et rester comme ça dans le silence pendant des heures. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très anti-moderne dans l'affût, parce que nous vivons dans une époque où nous voulons, comme ça, par un claquement de doigts, posséder tout de suite, alors que l'affût, on pourrait dire que le slogan, la devise de l'affût, c'est « peut-être rien, jamais ».
Bernard.
Vous avez appris, vous le dites vous-même, la vertu de la patience, l'impatient.
Oui, c'est très beau. C'est quelque chose à laquelle la patience, il semble que nous avons renoncé. Nous sommes des modernes, nous sommes des urbains, nous habitons au 21e siècle, nous ne trouvons pas normal d'attendre quoi que ce soit. Tout doit être rapide, nous vivons dans l'air, dans l'âge de l'accélération absolue. Et tout à coup, vous avez l'occasion, par l'amitié de quelqu'un qui vous invite à aller observer les panthères, vous avez l'occasion de faire l'exact contraire de ce pourquoi vous avez été conditionné. Vous attendez, vous espérez, vous vous taisez, vous vous repliez, vous êtes obligé d'aller en vous-même, vous regardez le monde et tout d'un coup, tout paraît plus beau parce que vous avez simplement fait l'effort de regarder mieux.
Faire de l'affût un style de vie, une ligne de conduite. Et je vous cite page 164. On peut tenir l'affût devant le tilleul en bas de chez soi, devant les nuages du ciel, et même à la table de ses amis. Dans ce monde, il survient plus de choses qu'on ne le croit.
C'est-à-dire que, vous comprenez, le problème, c'est que moi, il m'a fallu aller au Tibet, essayer de voir des panthères pour arriver à cette conclusion très banale. Alors, il y a des gens qui sont beaucoup plus sages que moi et qui savent très bien qu'en ouvrant les yeux devant un étang, devant sa montagne, sur son balcon, à sa fenêtre ou sous un arbre, on peut tout à coup s'apercevoir que le monde vous offre beaucoup plus de, comment peut-on appeler ça, de chatoiements, d'événements, de petits événements qui rendent très riche la vie. Mais pour ça, il faut s'asseoir et regarder. Et ça, nous l'avons oublié parce que la modernité nous a mis du poil à gratter en nous-mêmes et nous n'arrivons pas à tenir en place.
On peut lire votre livre, La Panthère des Neiges, comme un plaidoyer écologique.
Oui,
c'est pas votre registre, hein, mais en l'occurrence, on peut pas ne pas y penser.
C'est-à-dire que mon registre n'est pas le plaidoyer, parce que moi je ne plaide pas, je ne suis l'avocat d'aucune cause, et je ne suis pas un légiste, je ne sais pas ce que c'est qu'une plaidoirie, j'ai pas fait des études de droit, et je ne suis pas à la tribune, mais on peut le lire, enfin si tant est qu'il faille le lire, j'en sais rien, mais j'ai essayé moi de dire que le monde était d'une complexité biologique extraordinaire, que l'évolution est une marqueterie, une mosaïque, un miracle, c'est ça. Continuons à utiliser des mots spirituels, mais vous avez raison. Le monde est un miracle et nous sommes incroyablement inconséquents à son égard. Nous sommes là à nous persuader qu'il faut augmenter la réalité, qu'il faut prolonger la vie de l'homme, qu'il faut aller découvrir Mars, qu'il faut s'entourer d'écrans, qu'il faut penser que le plan de la virtualité est aussi important que le plan de la réalité. Mais nous sommes fous. Nous devrions être beaucoup plus conservateurs. J'emploie le mot dans le registre du musée, si vous voulez. Quand on est conservateur, quand on est devant un musée sublime, plein de manifestations, d'expressions et de formes magnifiques, comme les panthères, comme les loups, comme les aigles. Et nous avons un comportement d'enfant gâté, en fait, devant un trésor.
Ce qui est certain, c'est que quand on vous lit dans La Panthère des Neiges, c'est que vous n'aimez pas beaucoup les chasseurs.
Non, mais alors, d'abord, il faut voir que quand on écrit au fil de la plume, on peut parfois se laisser aller à quelques embardées.
Ben, vous faites
et moi,
bien.
Ce qui me donne un peu d'urticaire, c'est plus le discours sur la chasse que la très vieille pratique ancestrale de la chasse. Vous voyez, je trouve que c'est dommage d'user des mêmes mots, du mot chasseur en l'occurrence, pour décrire des choses très différentes. C'est pas pareil de tuer un mammouth avec un épieu. Ça, c'est la chasse dans ce qu'elle a d'anthropologique, dans ce grand combat que l'humanité a mené contre l'adversité du monde. Et puis de tirer une volée de plomb sur un faisan obèse qui vient d'être relâché dans une forêt. C'est pas la même chose et il faut pas me raconter d'histoire en m'expliquant qu'il faut réguler, que les forêts sont abîmées par les chevreuils et les sangliers, et que si jamais les chasseurs n'étaient pas là, le monde ne serait plus qu'une vaste porcherie de sangliers laissés en liberté dans nos forêts. Il y a un moment, on ne va pas non plus donner une médaille à des gens qui s'amusent le dimanche à tirer sur les bêtes, vous comprenez? C'est tout, moi, je me permets de dire ça, mais comme dans ce pays, dès qu'on dit quelque chose, on passe pour un dangereux ayatollah, et c'est vrai, c'est un pays qui n'a plus de nerfs, alors on ne peut plus rien dire. Mais moi, je me suis permis de dire ça.
Alors, l'ayatollah Tesson a aussi des périodes de tendresse et qu'on traverse avec vous dans ce livre. Je désirais une panthère, j'avais mes raisons, elles étaient intimes. Pour quelles raisons intimes associez-vous les apparitions de la Panthère des Neiges au souvenir de votre mère, Sylvain Tesson?
Parce que ma mère est morte brutalement il y a quelques années. Ça a été dans ma famille un grand chagrin. Si je puis dire, nous ne nous y attendions pas. C'est idiot de dire ça parce que la mort est toujours un scandale. Mais celle-là était particulièrement inattendue puisqu'elle était en très bonne santé. Tout d'un coup, elle a disparu. Et bizarrement, par une sorte de pensée magique, je me suis mis à rechercher son souvenir, sa pensée, dans les spectacles que j'ai pu voir après sa mort, au cours de mes voyages, auxquels elle aurait été très sensible. Je savais qu'elle aurait été très sensible à la vision d'une panthère, à ces grandes steppes désolées du Tibet. Elle avait le même goût que moi pour les immensités monotones, un peu lugubres, steppiques, très vide de toute installation humaine. Elle avait un goût pour cette géographie de la désolation. Et donc, à chaque fois que je voyais une manifestation esthétique dans les plateaux du Tibet de la panthère, je pensais à ma mère. Bon, c'est quelque chose de très banal, quoi. C'est-à-dire que quand un être vous manque, tout finit par prendre la forme de son visage.
On vous offre donc La Panthère des Neiges à paraître jeudi chez Gallimard, dédicacé par Sylvain Tesson, si vous répondez vite et bien à la question que vous pose maintenant l'auteur lui-même.
Combien de fois ai-je vu La Panthère des Neiges lors de mon voyage au Tibet ?
Très bien. Réponse au 3210. Merci beaucoup Sylvain Tesson d'être venu nous raconter en avant-première cette passionnante traque photographique de La Panthère des Neiges. Merci. Sur les hauts plateaux du Tibet où vous étiez encore il y a quelques jours. Je crois que j'étais frappé de vous voir arriver dans notre studio avec votre sac et je me dis, bon sang, il est tout le temps en partant.
J'en redescends.
Ce garçon, il en redescend. Eh bien voilà. Dans un instant, votre soirée télé avec Isabelle Morini-Bosque.